Vous êtes sur RTL.
Et votre journal avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Les voisins du suspect de l'attaque de Lyon ont du mal à réaliser.
Toujours en garde à vue, l'étudiant de 24 ans a reconnu avoir prêté allégeance à Daesh. Un nouvel espoir de libération pour Sophie Petronin, la dernière otage française dans le monde. Ses ravisseurs proposent un échange de prisonniers. Dans ce journal, nous irons à Sainte-Pazanne. L'enquête sur les causes de plusieurs cancers pédiatriques se concentre notamment sur une école. Et puis, nous irons à la rencontre de Grace Gueyoro. C'est notre fille en or du jour. Elle fait partie des Bleus qui entrent en compétition dans une semaine maintenant. Dans 13 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Et ce matin, vous surfez au château de Clairefontaine, classe.
C'est la maison du football français, le château de Clairefontaine, avec des intrigues encore plus palpitantes qu'au château des Oliviers.
On a hâte. Le château des Oliviers.
Voilà, mon Dieu.
C'est vieux.
Chacun ses références, les amis.
Marina, de météo d'ici 7h.
Pas un nuage dans le ciel de Châtellerault dans la Vienne. Il y est prévu 27 degrés cet après-midi.
RTL Matin.
Le principal suspect de l'attaque au colis piégé de Lyon avait donc prêté allégeance à Daesh.
C'est ce qu'il a avoué en garde à vue. Celle-ci est toujours en cours dans les locaux du service antiterroriste de Levallois-Perret. Le profil de celui qui a préparé l'attentat pendant des semaines reste énigmatique. Mohamed Hichem, 24 ans, n'était absolument pas dans les radars des services de renseignement. Dans le quartier où il habitait avec ses parents à Lyon, c'est toujours le choc. Encore plus pour ceux qui le croisaient tous les jours, Mourad Jabari.
Oui, ils sont tout simplement sidérés. Difficile d'imaginer qu'un possible membre de Daesh habite ici, au quatrième étage de cette petite résidence.
Ça fait peur, c'est traumatisant quand même.
De l'extérieur, ce voisin de 24 ans ne montre aucun signe de radicalisation. Et c'est bien ce qui terrorise Pascal.
On ne sait plus à côté de qui on habite. Maintenant, ça craint, ça fait très peur. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de temps avant qu'on puisse refaire surface.
Dans cette cage d'escalier, ce n'est qu'une ombre. Mais quand on le croise, il est poli, souriant, dans sa chambre, dans son ordinateur. Les enquêteurs n'ont pas trouvé d'éléments qui le rattachent à une organisation terroriste. Et pourtant, l'homme confectionne un colis piégé dans sa cuisine. Océane occupe l'appartement du dessous.
Il nous faisait une bombe au-dessus de la tête, quoi. On se dit qu'il était au-dessus de nous et on aurait pu exploser à tout moment. Vivre dans un quartier où il y a des gens comme ça, où on risque de se faire exploser à tout moment. Il y a un moment donné, un peu un ras-le-bol, quoi. Être en sécurité chez soi, c'est quand même la base.
Jamais Océane a pensé que ce jeune homme, ce voisin frêle aux petites lunettes, pouvait être un danger.
Le reportage de Mourad Jabari à Lyon pour RTL. Dans le Bas-Rhin, les recherches doivent reprendre ce matin pour tenter de retrouver une fillette. Elle se trouvait à bord d'un bateau gonflable avec des membres de sa famille hier quand l'embarcation a chaviré. Trois corps ont déjà été repêchés.
Peut-être un espoir pour Sophie Petronin, otage depuis 2 ans et demi au Mali.
L'humanitaire est la dernière Française détenue par des djihadistes dans le monde. Dans un entretien accordé à nos confrères de France 24, l'un des chefs d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, évoque certaines conditions pour la libérer. En fait, il propose un échange de prisonniers. Pour le neveu de Sophie Petronin, l'État français doit saisir cette opportunité. Il faut aller vite, implore Arnaud Granouillac.
On a une porte qui s'est entrouverte, donc il faut plus perdre de temps. Du temps, il y en a déjà assez qui a été perdu. C'est un espoir dans les négociations. Après, on est quand même relativement très, très inquiet parce qu'encore une fois, l'état de santé de ma tante est très précaire aussi. Donc voilà, on parle plus d'argent. C'est un pas en avant des personnes qui la détiennent, justement, qui, si on peut dire, lance un appel au gouvernement français pour essayer de libérer ma tante au plus vite par le biais de peut-être la libération de prisonniers.
Alors cette interview justifie, encourage même le nouveau déplacement de Sébastien, votre cousin, le fils de Sophie Petronin, sur place.
Tout à fait, tout à fait. Donc le déplacement de Sébastien est totalement justifié. Maintenant, c'est au gouvernement français de l'entendre aussi.
Des propos recueillis par Pierre Julien pour RTL.
À Sainte-Pazanne, les recherches se concentrent autour d'une école.
Vous le savez, une enquête sanitaire est menée pour comprendre les raisons de plusieurs cancers pédiatriques dans cette commune de Loire-Atlantique. L'établissement, proche de lignes à haute tension, va être examiné avec attention, que ce soit l'air des classes, l'eau. Sans tomber dans la psychose, les parents veulent surtout enfin connaître la vérité, Patrice Gabart.
Oui, tous les regards se tournent aujourd'hui vers Notre-Dame-de-Lourdes, l'école privée de Sainte-Pazanne, où l'on dénombre plusieurs cas de cancer pédiatrique, dont un mortel, sur les 16 cas répertoriés jusqu'à présent par le collectif Stop au cancer de nos enfants. Cette école, proche de lignes à haute tension et d'une ancienne usine à bois, déjà dans le collimateur des familles, est au cœur de l'enquête de terrain pilotée par l'Agence régionale de santé. Les parents d'élèves en ont été informés cette semaine par un courrier de l'enseignement catholique. Fabien, papa d'une fillette de 6 ans, élève en grande section de maternelle.
C'est analyse de qualité d'air dans les différentes salles de classe, analyse d'eau, la qualité d'eau potable des robinets, dont se servent les enfants pour boire, pour se laver les mains, etc. Et puis une analyse des champs électromagnétiques, du peut-être différentes lignes haute tension qui passeraient à proximité de l'école.
Une question qui divise toujours les scientifiques. Les parents, eux, attendent des réponses.
Bah, c'est de l'inquiétude, mais en même temps, on continue à vivre normalement. Quoi. On ne va pas psychoter non plus, rentrer dans une psychose. On est obligé d'y penser quand on voit les cas comme ça qui se passent sur notre commune. On est pressé aussi de savoir les raisons de ces maladies. Ils se sont engagés dans le courrier, comme quoi on aurait le résultat avant la prochaine rentrée.
Les prélèvements d'air, d'eau et les mesures d'ondes électromagnétiques devraient avoir lieu dans une quinzaine de jours.
Le reportage de Patrice Gabart à Sainte-Pazanne pour RTL.
Dans un tout petit instant, la Coupe du monde de foot féminin, ça débute dans tout juste 7 jours. Tout pile, à tout de suite sur RTL.
Pour moi. RTL Matin avec Amandine Bégaud.
6h37 sur RTL, la suite du journal avec Agnès Bonfillon à Maubeuge. Agnès, la percée d'une liste musulmane aux élections européennes.
Alors au plan national, l'Union des démocrates musulmans de France a fait un score très modeste, 0,13%. Mais dans certaines villes, cette liste a concurrencé les partis traditionnels. C'est le cas dans le Nord, à Maubeuge donc, où elle a obtenu cette liste plus de 6% des voix, avec des pointes à 40% dans certains quartiers. Franck Ronson.
Oui, et le message a été bien relayé via Internet et les réseaux sociaux communautaires en appelant à voter simplement pour la liste 34 et à imprimer leur bulletin. Sur Maubeuge, où vit une forte population de confession musulmane, ce parti a suscité une certaine adhésion, jusqu'à 40% de votants dans le quartier Épinette, soit une centaine de voix. Pas étonnant pour la Houssen.
Il y a un problème d'islamophobie dans ce pays. Des partis comme ça, il faut leur donner leur chance de défendre ces idées-là. On est français, hein, on vit notre islam comme on doit pouvoir vivre son christianisme ou son judaïsme, je pense. Hein. Sur le problème du voile, pourquoi on fait cette réaction un peu allergique, quoi. C'est pas parce que c'est une liste musulmane que c'est une liste intégriste.
Une liste taxée d'identitaire par quelques élus. Hakim, jeune père de famille, est aussi méfiant.
Moi, ça m'inquiète un petit peu. C'est bizarre de vous dire ça. Je suis musulman. Parce que je me dis comment ça va être perçu encore à l'heure actuelle, c'est plus de la peur, vous voyez, ça va être plus de la crainte.
À la sortie de la boucherie halal, Nadia regrette de ne pas avoir trouvé le bulletin dimanche.
Sur Maubeuge, les gens, ils deviennent, avec tout ce qui se passe, attentats et tout, ils deviennent de plus en plus racistes ici. Des gens comme ça qui vont nous défendre, c'est bien. Aller imprimer leur papier, j'étais pas au courant. Pour les municipales, s'ils se présentent, y a pas de problème.
Les élus du secteur entendent rester vigilants pour les prochains scrutins.
Le reportage de Franck Hanson dans le Nord pour RTL. On passe au tennis. La belle surprise niçoise, le français Antoine Hoang, 146e mondial, se qualifie au troisième tour de Roland-Garros. En revanche, ce jeudi a sorti la dernière française en lice du tournoi. Exit Caroline Garcia. En foot, Dijon ne s'est pas laissé impressionner par l'ambiance de Bollaert. Les Bourguignons prennent une option sur le maintien en première division grâce à un match nul arraché à Lens, un partout.
Et puis le coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot féminin sera donné dans une semaine tout pile. Agnès, on continue à découvrir nos bleus.
Oui, aujourd'hui, portrait de Grace Gueyoro, milieu de terrain offensif. Cette jeune joueuse de 21 ans est promise à un très bel avenir. Elle est l'une des cadres de son équipe du PSG. Grace, c'est un caractère bien trempé, Sylvain Charlet, une fan de mode, très drôle, et une jeune fille attachée à son histoire familiale.
RTL, des filles en or.
Sylvain Charlet. Grace Gueyoro est née à Kolwezi, en République démocratique du Congo. Elle n'a que 2 ans quand sa mère décide de quitter le pays.
Elle a pris le sacrifice de quitter parce qu'elle a laissé toute sa famille au Congo. Elle partait un peu dans l'inconnu, mais je pense qu'aujourd'hui elle regrette pas parce que tout ce qu'elle voulait, c'était une meilleure vie pour nous, qu'on puisse avoir la chance de réussir aussi, d'avoir des études, d'avoir une meilleure vie.
Et cette meilleure vie, la famille Gueyoro va la trouver à Orléans. C'est là que Grace découvre le football dans les pas de son grand frère Yann, qui a eu le malheur de la cantonner au rôle de gardienne.
Il me tirait des grosses frappes et il me dit « Allez, arrête les buts et tout ». Et au fur et à mesure, je dis « Non, c'est bon, j'en ai marre. Moi, j'ai plus envie d'aller dans les buts. Soit je vais plus dans les buts, soit tu joues tout seul ». Du coup, il me dit « Ah bon, bah vas-y, bon, on fait l'inverse. Moi, je vais dans les buts, ça va être à toi de me faire des frappes ».
Et Grace s'est depuis imposée comme l'un des plus beaux espoirs du football français, mais avec une idée en tête, ne pas mettre de côté sa part de féminité.
Les gens, ils me disent « Mais tu fais vraiment du foot ?» Parce que je mets des robes, je mets je me maquille, je m'apprête. J'arrive à faire la différence vraiment entre le foot. Quand je suis dans le foot, j'arrive à faire la fille agressive. Puis quand je sors du foot, alors ça n'a rien à voir. Je passe ma vie à faire du shopping, regarder des vidéos de maquillage, j'aime beaucoup. Je suis une vraie fille.
Grâce qui peut compter depuis toujours sur le soutien indéfectible de sa maman. Pourtant, cette dernière s'est longtemps inquiétée.
Elle me dit non, tu vas pas ressembler à un garçon, tu vas être musclée. Ma mère, elle voulait pas. Aujourd'hui, elle aime trop le foot. En fait, elle m'a tellement regardée, en fait, et j'ai tellement communiqué cette passion. Et même des fois, elle me disait, là, t'étais hors jeu. J'ai dit, maman, tu connais. Enfin, j'étais choquée parce que moi, pour moi, elle aimait pas ça.
Madame Gayoro s'est prise au jeu et aujourd'hui, elle peut être fière de sa fille. Grâce vit un premier rêve, celui de porter le maillot bleu. Décrocher le titre mondial le 7 juillet prochain lui permettra peut-être d'en réaliser un autre, celui de devenir journaliste afin d'animer sa propre émission de sport.
Il y a de la concurrence dans l'air pour très signer Sylvain Charlet pour RTL.
Merci beaucoup Agnès, on vous retrouve tout à l'heure à 8h.